ce nom glorieux, majestueux, le seul qui nous a été donné d'en haut pour notre salut, pour le pardon de nos péchés, pour notre réconciliation avec le Créateur. Ce nom est à la fois une arme offensive et défensive, car au nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire sur les instincts pervertis de la chair humaine, du corps humain plutôt, la victoire sur l'ennemi, sur le diable et sur toute son armée. Nous allons, tout en demeurant évidemment dans la présence du Seigneur, incliner nos têtes et nous préparer à recevoir sa parole. Alléluia. Quelle grâce, quel privilège pour nous, Seigneur, d'invoquer ton nom. Ce nom qui est glorieusement élevé au-dessus de tout autre nom. Ce nom qui a ouvert le ciel pour faire descendre le salut, Seigneur, sur cette terre qui nage dans la perdition. Quelle grâce pour nous, Seigneur, ô Dieu, de nous tenir une fois de plus devant toi pour invoquer ton nom. Ta parole déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Un jour dans notre perdition, un jour loin de toi, alors que nous nous vautrions dans toutes sortes de péchés abominables et horribles, tu nous as fait la grâce d'invoquer ce nom. Et ce jour-là, nous avons été affranchis, libérés de notre culpabilité par rapport à notre passé. Depuis ce jour-là, Seigneur, tu nous as fait sortir de ce monde des ténèbres pour nous faire entrer dans ton royaume de lumière. Et depuis, ô Dieu, nous t'appartenons, nous faisons partie du troupeau de ton pâturage. Et depuis, Seigneur, nous sommes tes brebis dont tu prends soin jour après jour. Depuis ce jour, ô Dieu, nous sommes dans ta bergerie, à l'abri de toutes sortes de flèches empoisonnées qui proviennent du monde des ténèbres. Depuis, Seigneur, en toi, eh bien, nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Merci pour tout. Aide-nous, Seigneur, à être conscients de cette position unique, Seigneur, de cette position singulière qui est la nôtre, de par notre présence en toi. Puisque nous sommes en toi, ô Dieu, nous sommes alors devenus les fils et les filles du Père. Merci pour tout. Nous voulons maintenant, Seigneur, après ce moment de louange et d'adoration, te tendre une oreille attentive afin que tu nous parles. Et ce matin, nous voulons recevoir ta parole avec joie. Nous voulons recevoir ta parole comme étant cette nourriture dont nos âmes ont besoin. Cette nourriture, ô Dieu, dont nos corps ont besoin. Et pour cela, nous te prions, Seigneur, de nous aider à être dans de bonnes dispositions de cœur, d'éloigner de nous toute pensée captive, toute pensée de distraction, d'éloigner de nous tout ce qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, nous détourner de ta face. Nous voulons que nos regards, que tout en nous soit rivé sur toi. Bénis ta parole, assiste ton serviteur, alors qu'il se tient devant toi et devant ton peuple, pour, Seigneur, proclamer ta parole. Il a ses faiblesses, il a ses limites. Cependant, ta grâce est présente. Merci pour tout. Amen. Et gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons acclamer très fort le nom du Seigneur. Nous allons revenir sur notre thème de la fois dernière, à savoir le type de disciples que Jésus choisit et qu'il utilise. Le type d'hommes et des femmes qui appartiennent à Christ, qu'il choisit pour en faire des outils entre ses mains et pour l'avancement de son royaume. Alléluia. Et pour cela, nous allons revenir à l'histoire de cet homme, à savoir Pierre, cet homme qui un jour a été appelé comme vous et moi, cet homme qui un jour a eu cette rencontre plus que merveilleuse avec le Seigneur. Et ce jour-là où il rencontre Jésus, eh bien le Seigneur change tout de suite son nom. Lui, Simon, fils de Jonas, va désormais s'appeler Pierre, à savoir le rocher, à savoir Képhas ou Céphas. Et c'est ainsi que commence l'histoire du frère d'André. Et tout au long des évangiles, et encore dans les livres des Actes, et plus tard dans les deux épîtres qu'il a laissés à l'Église, qu'il nous a légués, nous allons avoir affaire à quelqu'un qui va merveilleusement servir son Dieu jusqu'au bout. Car d'après la tradition, cet homme est mort à martyr, pendu sur une croix, à l'instar de son sauveur. C'est ainsi que va s'achever le séjour ici-bas de cet homme. Mais quel a été le parcours de cet homme? Eh bien, nous allons revenir une fois de plus à sa vie et voir le type de disciple que le Seigneur choisit, sur lequel il jette son dévolu pour en faire des outils entre ses mains pour la manifestation de sa gloire ici. Alléluia. Car comme vous le savez, mes amis, je me permets de vous le rappeler encore aujourd'hui, la manifestation du règne de Dieu reste le seul antidote aux antivaleurs qui rongent nos sociétés. La manifestation du règne du Christ reste la solution idoine à tous les problèmes des hommes, quels qu'ils soient. Et pour cela, le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes. Il va travailler, qu'il va préparer, qu'il va équiper, qu'il va rendre capable d'être enfin sa main ici-bas pour le salut des uns, pour la délivrance et la libération des autres. Nous allons relire très rapidement les deux passages que nous avons lus l'enfant dernière, à savoir Luc chapitre 22. Nous allons aller à la rencontre du Seigneur. Bientôt, il va entrer dans cette période que nous appelons la passion, où il va connaître toutes sortes de choses terribles. Luc 22, à partir du verset 28, nous lisons, il s'adresse à ses disciples, c'était autour du repas pascal, il leur dit, « Vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume pour vous, comme mon Père en a disposé pour moi, afin que vous mangez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus dit à Pierre, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître. » Et enfin, Jean chapitre 21, et là nous sommes sur le rivage de la mer de Galilée, le Seigneur entre-temps est mort, il est ressuscité, et là pour la troisième fois, il va se manifester à ses disciples dans un contexte tout particulier, parce qu'ils étaient partis, encore Pierre, c'est lui qui avait donné proposition, qui avait dit aux autres, écoutez, moi je vais aller pêcher. Six autres vont lui dire, oui, nous allons avec toi. Et c'est ainsi que cette nuit-là, ils vont travailler, ils vont jeter le filet dans toutes les directions sans rien prendre, aucun poisson, jusqu'au matin, alors qu'ils savaient très bien, de par leurs compétences en matière de pêche, que la nuit reste la période la plus propice pour pêcher. C'est comme ça que dans des pays avec une vocation de pêche, eh bien les chalutiers sortent la nuit pour aller jeter le filet et attraper du poisson. Et là, sur le rivage de la mer de Galilée, Jean 21, à partir du verset 12, nous lisons, s'adresse aux sept, Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» Car ils savaient que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna, ainsi que le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples, et depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, là il fait appel à l'omniscience du Seigneur, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Amen. Suis-moi. Pierre, autrefois Simon, autrefois sa vie était semblable à un roseau ballotté par toutes sortes de courants traditionnels. Et puis c'est la rencontre merveilleuse, extraordinaire avec le Seigneur. Et de cette rencontre, quelque chose va se passer. Le Seigneur change son nom. De Simon, il devient Pierre, Pierre le rocher. Et cet homme, à partir de ce jour-là, va se mettre au service du Seigneur. Il va être parmi les 12 que le Seigneur choisit, qu'il met à part, à qui donne la puissance, à qui donne le mandat d'aller prêcher le royaume des cieux. Et Pierre, avec ses amis, vont partir sur toutes les routes, non seulement de la Galilée, mais aussi de la Judée, prêchant et proclamant le royaume de Dieu et vivant, expérimentant de choses extraordinaires, puisqu'il est impossible de prêcher le Christ dans la puissance du Saint-Esprit sans que cette prédication ne soit accompagnée d'une démonstration de puissance et d'esprit. Et puis, hein, cette nuit-là, la veille de sa crucifixion, cette nuit-là, où le Seigneur prend le repas de Pâques ensemble avec ses disciples. Et là, nous l'avons lu, il va s'adresser à Pierre. Il va lui dire, Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Cependant, je priais pour toi afin que ta foi ne défaille point. Pierre, comme à l'accoutumée, Pierre qui avait une haute opinion de lui-même. Pierre qui s'appuyait plus sur le fait qu'il s'appelait Cephas, qu'il s'appelait Pierre. Il n'était pas de la gélatine. Il n'était pas un simple vase d'argile. N'était-il pas Pierre? N'était-il pas rocher? Il lui répond, Seigneur, tu aimerais te dire une chose. Je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Cette nuit-là, Pierre montre, Pierre dit, Pierre proclame. Et comme je l'ai souligné la fois dernière, ce n'était pas de l'esbrouf, comme on dit. Ce n'était pas un étalage de propos prétentieux pour montrer aux autres disciples que lui, Pierre, frère d'André, fils de son père Jonas, était prêt. Si les autres étaient là, écoutant simplement les propos du Seigneur, lui, Pierre, était prêt à le suivre, aller jusqu'au bout avec le Seigneur, en prison et à la mort. Mais cette nuit-là, après cet épisode de Gethsémané, où finalement les autorités religieuses, la police du temple, etc., sont venues arrêter le Seigneur. Cette nuit-là, Pierre s'est mis à suivre Jésus de loin. jusqu'à ce qu'il arrive dans la cour du souverain sacrificateur, là où on avait amené son maître. Et là, dans la salle, avec devant le Sanhédrin, le conseil de Juifs, son maître comparaît. Nous sommes dans un moment particulier pour son maître, pour le Seigneur. Il est méprisé, il est en train de connaître l'heure la plus sombre depuis qu'il était venu sur cette terre. Il a affaire au pouvoir des ténèbres. Et à ce moment-là, alors que Pierre aurait pu être à ses côtés, aurait pu concrétiser cette confession qu'il avait faite, Pierre, devant une servante, gardienne de la porte, va nier. Quand la servante lui dit, « Mais Pierre, monsieur, toi aussi n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Pierre répond, « Non, je n'en suis pas. Je ne le connais pas. Je ne suis pas son disciple. » Cette nuit-là, mes amis, ces mots ont dû retentir de manière affreuse aux oreilles de Pierre. Je ne suis pas son disciple. Et pendant qu'il prononce ça, pour la troisième fois, le coq chante. Et à ce moment-là, le Seigneur sort de la salle où il avait été interrogé, où il avait comparu devant les Sanhédrins, et le regard se croise. Pierre réalise que suivre Jésus est plus question de bonne volonté. Suivre Jésus était plus qu'une question de faire des déclarations, même en public. Et là, l'homme va pleurer amèrement. Ça a dû être une nuit terrible pour Pierre. Lui qui était censé être un rocher, n'est-ce pas? Voilà, face à cette servante, le rocher se fissure de toutes parts. Il réalise que sa personnalité n'était que de la gélatine et non pas du roc. Il réalise qu'il n'était pas conscient de ses faiblesses, de ses limites. Lui, Pierre, il réalise qu'il n'était pas ce qu'il croyait être, n'est-ce pas? Alors, dans ce cas, qui était-il? Il a dû se poser cette question, qui suis-je? Il m'a donné le nom de Pierre. Je me suis mis à le suivre. Je lui ai dit que j'étais prêt à le suivre en prison et à la mort. Et voilà, devant ces hommes et cette femme, je nie le connaître, je renie son nom. Alors, qui suis-je? Jamais Pierre ne s'est senti aussi peu sûr de lui-même. Il pleura. Il eut conscience de ses faiblesses. Heureusement, la vie ne s'est pas arrêtée là. Oh, alléluia! Il y a eu cette terrible nuit où il a renié son maître. Mais heureusement, plus tard, il y aura ce matin glorieux. Oh, alléluia. Et là, sur cette plage, là, sur le rivage de la mer de Galilée, le Seigneur lui pose la question, pour la troisième fois, s'il aimait. Il venait déjà de répondre à cette même question par un oui de tout son cœur. Oui, Seigneur, je t'aime. Voyez-vous, je t'aime. Mais pour la troisième fois, l'homme est triste. Pour la troisième fois, l'homme se dit peut-être qu'il avait perdu la confiance de son Seigneur. La blessure était encore fraîche et béante. Les larmes étaient encore dans le cœur. Pourquoi me pose-t-il la question trois fois alors que je lui dis que je l'aime? Voyez-vous, certes, Pierre avait échoué. Certes, Pierre n'avait pas tenu son engagement. Il n'avait pas tenu sa parole. Cette parole qu'il avait prononcée, qu'il avait proclamée avec force de tout son cœur, cette confession publique, ses amis, apôtres étaient là. Il n'avait pas pu tenir cela. Il avait échoué. Mais cependant, Pierre aimait vraiment le Seigneur, malgré son échec, malgré sa chute, malgré son reniement. Il aimait véritablement Jésus. Et il était donc sincère quand il répond par oui aux questions du Seigneur. À la troisième fois, que pouvait-il dire de plus qu'il n'ait pas dit les deux précédentes fois, si ce n'est de faire appel à l'omniscience du Seigneur, au fait que Jésus connaît toutes choses. Et c'est là qu'il lui dit, Seigneur, tu sais, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. Oui, Jésus savait que Pierre l'aimait. Voyez-vous, avec ces trois questions, le Seigneur n'avait pas mis en doute l'amour de Pierre pour lui, pour sa personne, pas du tout. Mais alors, comme nous l'avons vu la fois passée, pourquoi lui avait-il posé la question trois fois? Ce n'était pas pour le charger, ce n'était pas pour l'ennuyer. Avec ces trois questions, le Seigneur met le doigt là où il fallait, là, la blessure dans le cœur. Le Seigneur lui donne, par ces trois questions, l'occasion, mes amis, de confesser son amour pour Jésus autant de fois qu'il l'avait renié. Oh, alléluia! Trois fois! Voyez-vous, c'est une démarche, mes amis, de restauration. C'est une démarche de réhabilitation. Pierre, la vie ne s'est pas arrêtée cette nuit-là. Je suis encore là devant toi. Tu as encore ma confiance. Ô grâce insondable du Dieu Tout-Puissant. Comment expliquer cela? Qu'est-ce que vous et moi, on aurait fait? On aurait gardé à jamais l'image d'un Pierre qui a renié Jésus, oui ou non? Et ce qui est terrible, c'est qu'encore aujourd'hui, vous trouverez les gens, quand ils parlent de Pierre, ils parlent comme étant celui qui avait renié Jésus. Je ne crois pas du tout au stéréotype de groupe. Certes, il avait nié, mais la vie pour Pierre ne s'est pas arrêtée cette nuit-là. Ses faiblesses étaient manifestées. Il avait chuté. Il était tombé plus bas. Mais l'amour de son Sauveur, la grâce de son Dieu, la miséricorde de Jésus, la compassion du Seigneur était toujours là. Il y avait encore espoir. Oui, mes amis, comme Jacques le dira plus tard, nous bronchons, nous trébuchons, tous de plusieurs manières. Personne ne peut dire que depuis qu'il a rencontré Jésus, il a toujours connu, ou sa vie a toujours connu, une ascension, une trajectoire montante. Oh, combien de fois nous l'avons renié, après avoir été à l'encontre de sa parole, après avoir été à l'encontre de l'engagement que nous avions pris un jour de le suivre. Il nous avait bénis. Nous lui avons demandé, Seigneur, si tu me donnes un peu d'argent, je soutiendrai ton œuvre. J'amènerai ça à l'église pour contribuer autant que faire se peut, modestement, à la construction de ta maison. Et puis le Seigneur a entendu. Et puis le Seigneur a ouvert la porte. L'argent est arrivé. Mais tout de suite, le moi a repris sa place. On s'est dit, oh là là, ça faisait très longtemps que je roulais à bord d'une belle Jeep. Bon, ça, je verrai plus tard. Vous voyez? Et après avoir investi, et là, c'est là alors que tu te réveilles, tu dis, mais c'est pas possible. Alors que tu abordes cette belle Jeep, dans un premier temps, ça t'a fait du bien. Tout d'un coup, tu commences à regretter, tu te dis, mais j'avais demandé qu'il me donne cet argent pour contribuer. Comment expliquer que je n'ai pas pu tenir mon engagement? Mon frère, ce n'est pas encore fini. L'amour de Dieu est toujours là. Les compassions du Seigneur sont toujours là. Alléluia. Voyez-vous, Jésus nous voit au-delà de nos chutes, au-delà, mes amis, de nos échecs, au-delà de nos doutes. Rappelez-vous des 11. Là, dans Matthieu 28, nous l'avons vu la fois dernière, il s'adressa aux 11 et leur demanda de le précéder en Galilée, sur une montagne. Et les 11 ont obéi. Ils sont partis. Et sur cette montagne-là, ils le voient. Et la Bible nous dit, quand ils le virent, les 11 l'adorèrent. Gloire au Seigneur, alléluia. Mais la Bible d'ajouter, quelques-uns eurent de doute. Combien y en avait-il parmi les onze qui avaient douté? Combien? La Bible ne le dit pas, et comme je l'ai dit la fois dernière, cela n'est pas important. En tous les cas, cela n'est pas important. Le plus important, c'est l'attitude du Seigneur envers les onze. Il n'a pas fait un tri. Il n'a pas dit, toi, vous avez douté, allez. Je vais m'adresser à ceux qui restent. Pas du tout. Nous l'avons lu, mes amis, la Bible nous dit, Jésus s'approcha et leur parla. Il parla, il s'approcha non seulement de ceux qui n'avaient pas douté, mais il s'approcha également de ceux qui avaient douté. Il leur parla, non seulement à ceux qui n'avaient pas douté, mais il leur parla de manière générale. Le Seigneur nous voit au-delà de nos doutes, au-delà de nos interrogations. C'est un Dieu merveilleux. Car dans la plupart des cas, nous avons toujours ce doigt accusateur, ce doigt qui juge et qui étiquette les gens. Lui, non, il est ceci, pour toujours. Mais avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. La culpabilité, comme nous l'avons vu la fois dernière, liée aux échecs et aux péchés du passé, peut nous hanter, peut nous obséder au point de nous paralyser dans notre marche. Combien aujourd'hui tournent en rond, ils font du surplace, ils n'arrivent pas à avancer parce qu'il y a la culpabilité par rapport au passé, par rapport à un péché commis il y a quelque temps, ou même il y a quelques années. Combien sont paralysés, sont presque anesthésiés dans leur marche à cause des échecs d'hier, à cause de telle ou telle autre chute d'avant-hier, paralysés de bien des manières. Et c'est là que le diable intervient. Lui dont la spécialité est de nous charger de toutes les fautes, même de celles pour lesquelles nous nous sommes déjà repentis. Il a un malin plaisir de nous rappeler ce que nous étions hier. Comment nous avons chuté lamentablement. Comment nous n'avons pas tenu notre parole de nous garder purs jusqu'au jour du mariage. Comment nous avons fini par mettre la main dans la caisse de l'État. Il est là pour nous rappeler cela. Alors même que nous nous sommes déjà repentis, il est là pour nous ressasser toutes ces choses. T'as vu, tu ne vaux rien. T'as vu, de tous ceux qui sont à la borne, tu es le plus grand cancre. Passez-moi l'expression. Tu ne vaux rien, regarde comment tu es. Tu as fait des proclamations, des belles paroles. Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout. Seigneur, je ferai ceci, regarde. Un tout petit peu, te voilà culbuté. Les pieds en l'air, tu ne vaux rien. Tu dois même arrêter. La borne, ce n'est pas pour toi. Voyez-vous? Et là, il te charge. Et là, il essaye de t'assommer. Et là, il essaye de t'anesthésier, d'atrophier ta foi, de la liquéfier. Car il sait très bien qu'en fin de compte, c'est la foi dont nous avons besoin. Le Seigneur a dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme du blé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. C'est la foi qui nous permet de nous approprier des promesses de restauration. C'est la foi qui nous permet, mes amis, de nous amener à Jésus malgré nos chutes, malgré nos faiblesses, pour recevoir le pardon. Oui, pendant qu'il cherche à nous culpabiliser, pendant qu'il essaye de nous paralyser, de nous maintenir là, par rapport à notre passé, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Jésus, lui, cherche à nous rendre libres. Il cherche à nous délivrer de cette culpabilité, car à la croix, il a tout accompli. Il a pris nos chutes sur lui. Il a pris nos péchés sur lui. Il a pris, mes amis, nos fardeaux sur lui. Il en est mort. Et au troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Il est celui qui nous voit au-delà de nos échecs, au-delà de nos doutes, au-delà de nos interrogations. La Bible nous révèle Jésus comme étant le Dieu qui ne brise pas le roseau froissé ou broyé, le Dieu qui n'éteint pas le lumignon qui fume, la mèche qui fume. Ça, c'est Matthieu 12, verset 20. Non, le roseau est déjà froissé. Ça a été le cas de Pierre. Qu'est-ce que les hommes pouvaient-ils encore attendre de cet homme-là, de ce roseau froissé, broyé? Aux yeux des hommes, ce roseau n'a plus de valeur. Mais avec Dieu, eh bien, il y a toujours espoir. Il agit avec patience envers nous. Il essaie. Il nous connaît mieux que quiconque. Nous devons savoir que quand Jésus nous a choisis pour être ses disciples, lorsqu'il s'est révélé à nous, eh bien, j'aimerais vous dire une chose. Il connaissait tous nos péchés à l'avance, toutes nos chutes à l'avance, comme nos moments de joie, de bonheur, de victoire. Le Seigneur n'est pas du tout impressionné par ce qui nous arrive. Pour nous, nous découvrons. Mais lui connaît toutes choses. Alléluia. Il connaissait déjà les échecs de Pierre. Pour nous, nous sommes peut-être surpris par notre pourriture intérieure, par nos faiblesses. Nous disons, c'est pas possible. Moi qui pensais être fort, moi qui pensais ceci et cela, je me rends compte qu'in fine, je suis aussi fragile qu'une limace. Je suis aussi vulnérable. Je suis incapable par moi-même de le suivre. Nous sommes surpris, mais pas Jésus. Voyez-vous? Quand il nous arrive de chuter, nous pleurons. Nous sommes surpris. Hein? Nous nous disons, mais c'est pas possible. Je n'étais pas sorti pour tomber. Mais il se trouve que je viens de tomber. Nous sommes surpris. Mais le Seigneur, lui, n'est pas surpris. Il nous connaît à la perfection. Et connaît et sait ce qu'il y a au fond du cœur de chacun de nous. Dans Jean 2, l'évangile de Jean, versets 23 à 25. Si on peut m'afficher ce passage rapidement. Jean 2, verset 23 à 25. Pendant que Jésus était en Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom à la vue des miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un. Il savait, écoutez bien, lisez bien, il savait de lui-même ce qui était dans... Il connaît ce qu'il y a dans le cœur. Quelquefois, nous sommes surpris de découvrir telle ou telle autre faiblesse dans tel ou tel autre domaine, alors que c'est un domaine où nous étions vraiment sûrs que quoi qu'il arrive, nous tiendrons bon. Et puis un jour, dans ce domaine-là, quelque chose arrive et nous voilà par terre. Vous comprenez pourquoi? Parce que lui connaît toutes choses. Il connaît ce qu'il y a dans nos cœurs. Vous comprenez pourquoi? Le Seigneur nous exhorte, au travers de Pierre, à rester vigilants et à prier pour ne pas entrer en tentation. Car, dit-il, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire, par nature, l'homme est faible. Voyez-vous, si nous tenons debout, c'est par sa grâce. Ce n'est pas à cause de notre éducation. Ce n'est pas à cause de choix que nous avions fait. Oui, nous pouvons choisir. Mais au-delà de nos choix, il y a sa main toute puissante. Il y a sa grâce. Alléluia. Et gloire à Dieu. Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne puisse pas défaillir. Priez, soyez vigilants, afin de ne pas entrer dans la tentation. Voilà la recommandation de la parole de Dieu, avoir une vie de prière régulière. Car au travers de cette vie, le Seigneur nous donne la force de pouvoir faire face à n'importe quelle tentation. Et gloire à Dieu. Alléluia. Pendant que nous prions pour ne pas céder à la tentation, pendant que nous prions pour ne pas entrer dans la tentation, eh bien, une chose que nous devons savoir, c'est que Jésus prie aussi pour nous, comme il avait prié pour Pierre. Alléluia. Quand nous échouons, quand il nous arrive de ne pas tenir notre engagement, quand il nous arrive, mes amis, de mépriser la parole de Dieu, nous devons nous rappeler ce que Jésus avait dit à Pierre avant que celui-ci le renie, avant que celui-ci chute lamentablement, misérablement, ce qu'il lui avait dit dans Luc 22, verset 32, que lui avait-il dit, verset 32, « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, afin que ta foi ne disparaisse pas, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Mes amis, Pierre allait tomber dans le péché. Mais Jésus a prié pour lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce qui est extraordinaire, je voudrais que vous me donniez toute votre attention. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons bouger nos mains pour éloigner un peu de nous la fatigue et le sommeil? Eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est que la prière de Jésus a été plus puissante que le péché de Pierre. Oh, alléluia. Et la très bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est que la prière de Jésus est aussi plus puissante que nos péchés d'aujourd'hui. Oh, alléluia. La chute, le péché de Pierre ne l'a pas maintenu, mais l'intercession de son Sauveur a fini par porter du fruit pour sa gloire. Alléluia. Voilà pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, verset 25, nous dit ceci, « C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. » Acclamons son nom. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Pendant que je suis en train de proclamer sa parole, il est assis à la droite du Père. Il est en train d'intercéder pour chacun de nous. Quel sauveur merveilleux nous avons! Quel sauveur extraordinaire nous avons! Et l'apôtre Jean, d'embrayer en disant dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de tout mal. Si nous confessons nos péchés, voyez-vous mes amis, la Bible nous le dit, il est fidèle et il est juste pour pardonner nos péchés. Et puis ensuite, pour nous purifier de toute injustice, de tout mal. Mes amis, Jésus est et reste le grand restaurateur des incapables, le grand restaurateur des faibles, le grand restaurateur des vulnérables, de ceux qui ont chuté et qui se repentent. Avec lui, il y a toujours de l'espoir. On peut revenir, et j'aimerais vous dire que même Judas, s'il ne s'était pas suicidé, après avoir réalisé sa trahison, après avoir réalisé ce qu'il venait de faire, et qu'il serait revenu à Christ, laissez-moi vous dire une chose, Jésus l'aurait pardonné, car à la croix il a pris tous nos péchés. Jésus, avant sa chute, avant son échec, Jésus avait dit à Pierre, puisque nous devons avancer, quand tu seras revenu à moi, écoutez bien, quand tu seras revenu à moi, quand tu te seras repenti, affermis tes frères. Il ne le voit pas seulement dans sa chute. Ouais, non. Il le voit beaucoup plus loin. Pierre repenti, Pierre revenu à Christ, Pierre restauré, réhabilité, Pierre envers qui il renouvelle la confiance et lui donne cet ordre. Quand tu seras revenu à moi, quand tu te seras repenti, ne reste pas bras croisés, affermis tes frères. Et là, sur la plage de la mer de Galilée, là, sur le rivage de cette mer, Jésus donne à nouveau à Pierre la plus belle invitation que l'on pourrait recevoir ici-bas. Quelle est cette invitation? Nous la trouvons au verset 19 et 23 de Jean, chapitre 21. Que dit-il à Pierre? Suis-moi. Verset 19 et verset 23. Et toi, suis-moi. Suis-moi. Là, sur ce rivage, le Seigneur restaure Pierre. Et Pierre restauré, Pierre réhabilité, Pierre rassuré par Jésus, reçoit de sa part une nouvelle occasion. Une nouvelle occasion de le servir, de servir son maître, de servir l'Église, de prendre soin des brebis du Seigneur. Par cette invitation, Pierre est appelé, mes amis, à laisser son échec derrière, à laisser sa chute derrière, à laisser sa faiblesse derrière et à se porter vers ce qui est devant lui. Qui est devant lui? Le Seigneur lui-même, alléluia. Qui a-t-il devant lui? Le royaume de Dieu, la nécessité de prêcher l'Évangile et de gagner les âmes. Mes amis, le chèque de Pierre, au regard de tout ce que nous venons de voir, au regard de l'attitude que le Seigneur a eue vis-à-vis de cet homme, l'échec de Pierre ne le définissait pas. Et nos échecs à nous ne nous définissent pas non plus. Quand nous nous regardons, nous devons arrêter avec cette image de voir constamment le menteur, de voir constamment l'impudique, de voir constamment quelqu'un rempli de toutes sortes de faiblesses. Oui, il y a eu l'échec. Oui, il y a eu la chute. Mais il y a la grâce et la repentance qui nous attend. Gloire au Seigneur. L'échec n'a pas devenu Pierre. Le Seigneur ne l'a pas regardé au travers de son échec. Il l'a regardé au travers de son amour, au travers de ses compassions, de sa miséricorde. Et c'est là qu'il lui dit, suis-moi. Alors que vous et moi, nous aurions été à la place du Seigneur, nous l'aurions disqualifié à tout jamais. Comment a-t-il osé renier son maître? Les autres disciples, peut-être qu'ils seraient arrivés à la même conclusion que vous et moi. Car il y avait les autres disciples qui, eux, s'étaient abstenus de s'exprimer. Vous voyez, quelquefois, mieux vaut se taire. Voyez-vous? Mais pour le Seigneur, la restauration est encore possible. Pour le Seigneur, il y a encore moyen de recourir à lui, de demander pardon. Car les échecs sont des chutes sur notre chemin, alors que nous marchons avec le Seigneur, alors que nous sommes à sa suite. Il va nous arriver de trébucher. Il va nous arriver que telle ou telle autre faiblesse se manifeste. Les échecs nous gardent humbles. J'ai connu des gens qui étaient comme ça, qui avaient une langue facile pour condamner, pour cataloguer les gens. Lui, c'est un impudique. Fini! Il n'ira nulle part. Lui, c'est un voleur. Je l'ai connu, mais aujourd'hui, c'est fini. Voyez-vous, manquant de compassion, manquant de miséricorde envers les autres. Plus dur que le Seigneur lui-même. Vous avez connu des gens comme ça, hein? Lui, là, comment? C'est un incrédule. Et il y a certaines religions, enfin, certaines sectes au sein du christianisme qui amènent les gens à être orgueilleux envers les autres.
Il n'y a qu'eux qui connaissent Dieu. Nous autres là, nous sommes en périphérie. Et ils sont au centre. Voilà. Et quand ils vous parlent, c'est avec beaucoup d'arrogance, beaucoup de fierté, de grandiloquence. Ils vous regardent, vous priez où c'est? À la borne. Eh, mes amis, ne soyez pas plus durs que le Seigneur lui-même. L'Église est la communauté des incapables, mais rendue capable par la grâce de Dieu. Et puis un jour, ces gens qui avaient toujours leurs doigts accusateurs pointés sur l'autre, elle, oh mais je la connais, elle n'a jamais été engagée. Elle mène une vie en dents de scie. Dans sa vie ressemble à des montagnes russes. Voilà. Telle, oh. Toi, tu l'as connue où? Moi, je me souviens, nous étions dans la même cellule, mais je me méfiais beaucoup. C'est un frère, quand je le vois, il n'ira pas loin. Oui. Arrogant. Non, tu ne peux pas dire ça. On aurait pu dire la même chose pour Pierre. Ça a été quelque chose de terrible. Ça a été un drame pour Pierre. Il en a souffert. Voilà pourquoi la troisième fois, quand le Seigneur lui pose la question, m'aimes-tu? Pierre est triste. Il s'est dit en lui-même, ça y est, j'ai perdu sa confiance. Pour moi, c'est fini. Je vais donc retourner à la pêche pour toujours. Oui, Pierre, pour toi, oui. Mais avec lui, rien, rien ne peut être déclaré définitif. Oui, nos chutes nous gardent humbles. Et le jour où ces mêmes gens avec leurs doigts accusateurs, rongés par la lèpre pharisaïque, et bien un jour cette même doigt, sous les effets de la lèpre, la doigt est arrachée. Vous savez, la lèpre a malheureusement cette capacité à emporter nos différents membres, les orteils, le doigt. Maintenant, une fois que la lèpre pharisaïque emporte ce doigt accusateur, il n'y a plus rien, les autres doigts suivent. Vous voyez, il n'y a plus rien, la main n'a plus cette force qu'elle avait autrefois, et la main fait quoi? Elle vient, elle se tourne vers la personne, et la personne réalise qu'elle n'était pas mieux que ce qu'elle condamnait. Elle était tout aussi coupable, faible, vulnérable comme les autres. Mes amis, par rapport à nos échecs, Jésus a payé pour chacun d'eux à la croix de Golgotha. Alléluia. Il a réglé nos dettes vis-à-vis du Père. Et il nous donne une conscience. Une conscience libre de tout sentiment de culpabilité comme un gage de son immense amour pour chacun de nous. Encore une fois, mes amis, l'Église est la communauté des incapables pardonnés et rendus capables par le Saint-Esprit. L'Église est la communauté des faibles rendus forts par le Saint-Esprit. L'Église est la communauté des fragiles rendus solides par le Saint-Esprit. Alléluia. En conclusion, pour terminer, à travers l'histoire de Pierre, mes amis, Jésus nous montre comment il peut transformer. Non seulement il peut redonner de l'espoir à quelqu'un qui n'a plus d'espoir, à quelqu'un qui pense que puisqu'il a fait ceci, il a commis tel péché, pour lui c'est fini. À travers cette histoire, Jésus nous montre comment il peut transformer un incapable, un homme qu'il a renié publiquement, comment il peut le transformer en un solide rocher pour son Église. Oh, alléluia. Puissamment fortifié par le Saint-Esprit, Pierre est devenu un vrai disciple de Jésus. Un disciple qui souffre, et il a souffert tout au long de sa vie, jusqu'à connaître le martyr. Un disciple qui encourage, et qui n'est pas là pour condamner. Voilà pourquoi la Bible nous demande d'être patient avec les faibles. Au lieu de se réjouir des faiblesses des autres, nous devrions pleurer, nous devrions prier pour eux, Nous devrions les encourager et non pas être là seulement à attendre le moindre écart de langage. Oh, je savais, sa bouche n'est pas encore convertie. Vous avez entendu ça? Oh, quelle grossièreté! Moi, je te disais, ce frère n'est pas digne de prêcher. Vous voyez? On attend toujours que l'autre trébuche pour lever notre main et lui pointer notre droit accusateur. Mais Pierre va devenir un disciple qui encourage, un disciple qui persévère, parce qu'il a compris que le simple fait de s'appeler Pierre ne suffisait pas. Il fallait persévérer dans la prière, il fallait persévérer dans la connaissance de la parole, dans la communion avec lui. Pierre est devenu un disciple toujours humble. Quand on est passé par là, on réalise qu'on n'est pas mieux que les Samaritains. Vous savez ça? Ah oui, les Samaritains, ceci, cela. Et puis tu t'es dit, mais les Samaritains sont peut-être même mieux que moi. Parce que moi, je l'ai nié comme ça, publiquement. Et cet homme, c'est-à-dire Pierre, sera toujours un courageux ambassadeur de l'évangile du pardon pour les incapables les plus misérables. Oh, alléluia! Et il va proclamer cet évangile du pardon. Il va s'adresser aux gens. Voyez-vous, plus tard, nous retrouvons Pierre dans la chambre haute. Plus tard, il va expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit. Plus tard, celui qui sort, qui descend de la chambre haute, qui se tient devant tous ces gens, cette fois-ci, il n'utilise pas un doigt accusateur. Cette fois-ci, il leur annonce l'évangile. Alléluia. Au chapitre 2, la Bible nous dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Alléluia. Cette fois-ci, il s'adresse à ces gens-là. Il leur demande de se repentir. Et d'ailleurs, la réaction de ces gens-là, quand ils entendent le message que Pierre proclame à la Pentecôte, qu'est-ce qu'ils disent? Frères, que ferons-nous? Et là, il ne leur dit pas, quoi? Vous, des traditionnalistes, vous, des intégristes? Non, il sait d'où il vient. Il sait que c'est pour ces gens-là que le Seigneur l'avait réhabilité. Oh, alléluia. Il proclame la parole. Gloire au Seigneur, alléluia. Il leur dit, repentez-vous et recevez le pardon au nom de Jésus. Et ce jour-là, 3000 âmes ont quitté le monde des ténèbres pour entrer dans le royaume de Dieu. Grâce à la prédication de qui? De cet homme qui, plusieurs semaines auparavant, lors de cette nuit terrible, avait dit quoi? Je le connais, je ne suis pas son disciple. Et c'est avec force. Quoi? Vous dites quoi? Je ne le connais pas. Pour les hommes, ça aurait pu être la fin de son aventure avec Jésus. Mais avec Jésus, il y a encore de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Alléluia. Il y a des nuits terribles au cours desquelles nous chutons lamentablement. Des nuits terribles au cours desquelles nous le renions de par nos actes, de par nos attitudes, de par des propos qui sortent de nos bouches. Mais il y a aussi le matin de gloire où le Seigneur nous attend sur le rivage, non pas pour nous condamner, non pas pour dire maintenant c'est fini, mais plutôt pour nous récupérer, pour nous dire mon fils, ma fille, je suis là, tu peux repartir de zéro, tu peux repartir avec moi, repens-toi, je suis fidèle, il y a encore des choses à faire. Acclamons son nom. Nous allons incliner nos têtes. Pierre, suis-moi, a dit le Seigneur. Après une catastrophe pour Pierre, après cette chute terrible, après cette tragédie, pour nous, il aurait été catalogué comme un renégat, comme quelqu'un qui a renié la foi, pour qui il n'y avait plus de place auprès du Seigneur. Mais le Seigneur n'a que faire de telles attitudes. Il est celui
qui ne brise pas le roseau froissé. Il est celui qui n'éteint pas le lumignon ou la mèche qui fume. Il veut encore croire. Il veut encore déposer de l'huile. Il veut encore rallumer cette flamme. Il veut encore récupérer ce roseau qui a été froissé. Et par le miracle de la grâce, il veut en faire un nouveau roseau. Oh, alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Tu sais combien nous avons besoin de toi. Combien, Seigneur, nous sommes appelés à réaliser que nous ne sommes pas mieux que les autres. Nous avons des faiblesses que nous ignorons. Souvent, Seigneur, nous ne sommes pas conscients de la pourriture qu'il y a dans nos cœurs. Jusqu'au jour où nous trébuchons. Jusqu'au jour où nous te réunions. Seigneur, en commettant des actes ignobles. Mais ce matin, tu nous appelles à la repentance. Ce matin, tu aimerais nous rassurer, nous réhabiliter. Oui, ce matin, tu nous tends la main. Y a-t-il quelqu'un qui ce matin voudrait se repentir et se lancer de nouveau dans cette voie? Tu es resté assis, le diable t'a chargé, le diable t'a culpabilisé. Tu as de la peine à te relever. À chaque fois, il vient pour te ressasser de choses négatives par rapport à ton passé. Et puis tu donnes du crédit à tout ça, et puis de nouveau tu replonges. Ce sont les larmes, c'est l'humiliation, etc. Mais ce matin, le Seigneur te tend la main. Aujourd'hui, il est là, sur la plage de ta vie. Si tu veux que nous prions pour toi et avec toi, tu peux simplement lever la main. Oh, alléluia. Merci pour les mains qui s'élèvent. Merci de répondre favorablement à cet appel. Dieu est bon. Dieu, sa miséricorde durera toujours. Ses compassions se renouvellent chaque matin, nous le savons. Son amour est toujours là. Alors je vais prier pour toutes ces personnes qui ont levé leurs mains. Pendant que je prie pour vous, implorez la grâce de Dieu. Pleurez, dites: Seigneur, je voudrais sortir de cette torpeur, de ce trou noir culpabilisant, de cet état où le diable me martèle à longueur de journée que je ne vois rien. Mais aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. J'ai fait appel à ta miséricorde. J'ai entendu ta parole et je confesse mon péché et je reçois le pardon. Car tu es juste, tu es fidèle pour nous pardonner quand nous nous repentons. Seigneur, tu vois ces bien-aimés qui ont levé leurs mains parce qu'ils ont été interpellés par ta parole. Parce qu'ils réalisent ce matin qu'ils ont besoin de toi. Il leur est arrivé, Seigneur, de trébucher, de broncher. Il leur est arrivé, Seigneur, de s'écrouler après avoir commis tel ou tel autre acte abject. Et depuis, Seigneur, ils ont de la peine à se relever. Parce que l'ennemi de nos âmes vient tout le temps susurrer à leurs oreilles qu'ils ne valent rien, que le péché qu'ils ont commis est impardonnable, qu'ils n'ont plus de place auprès de toi. Mais ce matin, tu leur as parlé. Ce matin, tu te tiens sur le rivage de leur cœur. Ce matin, tu leur donnes l'occasion de se repentir. Et nous prions pour que, Seigneur, tu suscites en eux cet esprit de repentance et que tu leur accordes ce pardon dont ils ont tant besoin. Accueille-les, Seigneur, de nouveau dans ta présence, car tu es mort pour eux. À la croix, tu as pris leurs échecs. À la croix, tu as pris leur chute. À la croix, tu as pris leur faiblesse. Qu'ils repartent avec une conscience libérée de tout sentiment de culpabilité. Qu'ils puissent crier fort: oui, Jésus m'a pardonné. Oui, Jésus m'a restauré. Oui, Jésus m'a réhabilité. Qu'ils le confessent haut et fort au nom de Jésus. Merci pour tout. Aide-nous, Seigneur, à rester attachés à toi et à ne pas nous reposer, Seigneur, sur nos acquis, quels qu'ils soient, sur notre expérience avec toi, à ne pas nous reposer sur les lauriers du passé, mais à nous reposer sur toi à chaque instant de notre vie. Peu importe ce que nous sommes, nous pouvons nous appeler Pierre et puis un jour réaliser qu'il y avait de la pourriture dans nos cœurs. Notre force vient de notre attachement à toi. Notre force vient de notre communion avec toi, de notre intimité avec toi. Alors aide-nous à être des hommes et des femmes de prière, à rester vigilants
pour ne pas tomber dans la tentation. Merci pour tout. Merci Seigneur. Après ce moment, nous voulons te recommander les moments qui vont suivre. C'est un moment spécial où nous voulons donner ce que nous avons préparé pour la construction de ta maison. Oh, nous voulons le faire de tout notre cœur. Seigneur, quelle joie, comme tu le dis dans ta parole, de pouvoir contribuer à ton œuvre. Tu nous dis qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors accueille favorablement ces enveloppes en ton nom, Seigneur. Que ça soit comme une semence que nous jetons dans la terre, qui au moment venu germera, portera du fruit, et au travers de ce fruit, ton nom sera glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen.